Merci à Joanne pour ce chant magnifique. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici à l'Église Nouvelle Vie, mais également souhaiter une chaleureuse et fraternelle bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Il y aura, par le truchement de Radio Lumière en Haïti et de Télé Lumière, la réunion de ce matin, le message de ce matin sera également enregistré en vidéo et sera entendu et vu par des centaines de milliers d'Haïtiens. Et nous voulons ce matin ici, dans la réunion, ici à l'Église Nouvelle Vie, avec bien plus de 3000 personnes réunies, nous avons remis une fleur à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne. Si dans cette réunion ce matin, vous n'avez pas reçu votre fleur, en sortant, les gens vont vous attendre avec les fleurs si vous ne l'avez pas reçue. Mais au travers des océans et des kilomètres et des continents, c'est une fleur de compassion et d'amour que nous voulons offrir aux Haïtiens de partout qui vont entendre ce message. Nous voulons que ce message ce matin, que vous puissiez recevoir à travers ce message et ressentir tout notre amour, notre affection profonde pour Haïti, pour le peuple haïtien, que vous puissiez entendre nos prières et notre intercession, nos prières non seulement cette semaine, mais dans ces jours, semaines, mois et années qui sont devant nous, que vous puissiez également ressentir, que vous puissiez ressentir également notre engagement, nos sympathies pour tous ceux qui sont dans le deuil, mais aussi notre engagement farouche. Notre engagement farouche, public et solennel, que nous allons, qu'il n'y aura pas d'épuisement émotif, il n'y aura pas un moment d'attention pour par la suite revenir à nos affaires, mais nous sommes ici pour déclarer que nous allons être debout avec vous pour rebâtir le pays d'Haïti. Vous savez, on va le faire dans un instant, il va y avoir des milliers de personnes dans toutes sortes de circonstances et pour des plusieurs mois qui vont entendre ce message. Alors, est-ce qu'on peut leur exprimer notre présence, notre affection et notre engagement? Que je peux entendre un cri pour Haïti ce matin? Pour nous, Haïti, pour plusieurs d'entre nous, pour l'Église Nouvelle Vie, pour moi, pour plusieurs membres de l'équipe pastorale, le pasteur Marc Lecomte et tellement d'autres ici, Haïti, les Haïtiens et les Haïtiennes et le pays d'Haïti, c'est une histoire d'amour qui dure depuis bien longtemps. Alors que les yeux du monde se tournent vers Haïti, que les bras s'ouvrent vers Haïti, parfois pour la première fois en ce moment, et je m'en réjouis, pour nous, c'est une histoire qui dure depuis des années. Lorsque l'Église a commencé le 8 août 1993, le premier dimanche, j'ai apporté le message ici à quelques dizaines de personnes et le dimanche suivant, le 15 août 1993, j'étais en Haïti. J'étais à Port-au-Prince, j'étais au CAI, j'étais avec des amis dans le ministère là-bas et ça a signifié notre engagement dès le départ. Il y a des centaines et centaines de familles haïtiennes qui sont ici, nos frères, nos sœurs, dans l'Église. C'est 20 ans d'implication, 20 ans de conférences où nous sommes allés travailler avec les tendre la main en collaboration et respect, autant apprendre, autant recevoir que donner avec le corps de Christ et les églises et les pasteurs d'Haïti, 20 ans de parrainage d'enfants, 20 ans d'équipe continuelle, d'équipe médicale, équipe de ministère, ministère auprès des enfants, ministère auprès dans tous les domaines et sphères de l'œuvre chrétienne, 20 ans de soutien de missionnaires que nous soutenons encore aujourd'hui, 20 ans de partenariat avec des pasteurs là-bas et avec également de 20 ans de contribuer à la construction d'églises, à la construction d'infirmières, à aider à la construction d'orphelinats, au parrainage d'écoles et à la construction d'écoles, et au parrainage et à la construction également pour le collège public comme l'Institut de théologie pour la francophonie. Et nous nous souviendrons tous, tout le monde ici, pour le reste de nos vies, on se souviendra du 12 janvier 2010. On se souviendra où on était. On se souviendra de cette semaine. Et cette semaine, le Seigneur a dû nous rappeler ces paroles, cet appel qui est trouvé dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est la diapo 2, où l'apôtre Paul dit aux Éphésiens aussi, « Je vous demande de ne pas perdre courage. » La voix de Dieu qui nous appelait cette semaine, « Je vous demande de ne pas perdre courage. » Et vous savez comment, pendant nous sommes aujourd'hui, au jour 14 d'un 21 jours de jeûne et de prière, Et pendant ce jour, ce temps de jeûne et de prière, la semaine dernière ici à Nouvelle-Vie, au début du mois de janvier 2010, Dieu avait déposé un mot dans nos cœurs, plus qu'un mot, une passion, une quête, une recherche et un thème pour l'année 2010. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur avait déposé dans nos cœurs le mot « transformation ». Car l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est Dieu qui dit passionnément qu'il désire transformer sa capacité, le désir. C'est Dieu qui dit « je veux, je peux et je vais apporter la transformation ». Et une transformation qui touche la conscience, qui peut toucher un cœur à la fois. Transformer un cœur à la fois afin de faire de nous un corps qui devient transformé et capable de transformation. Une transformation, oui, de la conscience, du cœur, d'un corps de croyant. Mais nous avons annoncé la semaine dernière, ultimement, même la transformation d'une communauté. Oui, même la transformation d'un pays. C'est pourquoi ce matin, avec les événements qui viennent de prendre place, j'aimerais apporter comme message en quelques instants, comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Comment du mal, de la douleur, de la souffrance et de l'horreur peut-il émerger la vie? Cette semaine, nous entendons et à chaque jour, nous nous encourageons en entendant la voix de l'Esprit dans Éphésiens qui dit aussi, « Je vous demande de ne pas perdre courage. » Comme des milliers, il y a 100 000 Haïtiens dans la province de Québec, comme des milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes, et comme des centaines ici dans ce lieu, des milliers par le truchement d'Internet qui vont entendre ce message. Nous avons vécu les événements mardi, lorsque la terre a tremblé en Haïti. Nous étions en temps de jeûne et prière, dans une retraite de jeûne et prière. Et alors que la journée se déroulait vers la fin de la journée, même le soir, nous étions en jeûne et prière et nos portables ont commencé à sonner alors que le monde entier a tourné ses regards vers Haïti. Et comme vous, nous avons passé 48 heures, 72 heures dans certains cas, à prier, à être dans l'angoisse, étant absolument sans nouvelles ou communication d'Haïti. Chacun d'entre nous avons un réseau d'amis en Haïti qu'habituellement on peut contacter directement comme j'appellerais quelqu'un ici à Montréal. Et pendant plusieurs jours, on était sans nouvelles, puis on a été inondés d'appels et de gens qui demandaient des nouvelles de nos missionnaires, demandaient des nouvelles des gens que nous connaissons en Haïti. Et comme vous, dans plusieurs cas, nous sommes reconnaissants pour des miracles après miracles de personnes qui ont eu la vie sauve. Et comme vous, nous pleurons sur des gens très proches, très chers. J'ai et vous. Vous avez perdu des amis cette semaine. J'ai et vous avez perdu des gens avec qui nous avions un cœur qui était ensemble, des gens qui étaient très proches, pour lesquels nous avions beaucoup d'affection. Mais nous avons au milieu de l'horreur plusieurs bonnes nouvelles et raisons de nous réjouir. Et nous voulons donner des nouvelles à tous en même temps et remercier, et eux aussi vont entendre ce message. Et remercier le Seigneur que notre missionnaire Michel et Louise Charbonneau sont sains et saufs là-bas. Ils étaient en République. On peut remercier le Seigneur ensemble. Ils étaient en République dominicaine pour une conférence. Lorsque le séisme a pris place, ils ont sont revenus quelques jours plus tard, ont dû faire 12-16 heures d'autobus pour revenir dans la capitale, marcher de longues heures dans la nuit jusqu'à leur domicile. Il y a des murs qui sont tombés, il y a des questions de sécurité graves en ce moment, et on va voir avec toutes les églises pour les aider à rebâtir cette portion, mais ils sont sains et saufs et leur mission est protégée. Je veux que vous puissiez prier pour eux, parce qu'ils ont plus de 1500 enfants et familles à leur charge, et plusieurs ont perdu des êtres chers, et Michel et Louise, ainsi que l'Église, la communauté, a perdu un jeune homme qui s'appelle Gandhi, qui était leur bras droit, qui était comme un pasteur avec eux, un fils spirituel, un homme, un pilier, un jeune homme qui a grandi comme enfant, est devenu un jeune homme, et il a été trouvé, il a péri cette semaine, et toute la communauté est dans le deuil. Alors nous tenons avec Michel, avec Louise, et aussi avec leurs enfants, Naomi, qui est ici ce matin, sa fille et leur famille, nous prions pour eux afin que le Seigneur soit leur force. Je veux aussi dire un mot pour la famille Drisdel qui est ici. Nous avons un couple de notre église, André et Sylvie, qui depuis plusieurs mois vont en soutien à des missionnaires. Ils étaient à Port-au-Prince cette semaine et on a été presque 3 jours. Ils font un travail extraordinaire de soutien aux missionnaires, de micro-entreprises, d'aider des familles à développer des petites entreprises, de soutien pastoral de toutes sortes. sorte. Et cette semaine, on a été 3-4 jours sans voir de leurs nouvelles, mais nous voulons vous annoncer qu'ils sont sains et saufs. Leur maison est complètement écrasée, mais ils n'étaient pas dans leur maison lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Et en ce moment, ils sont en parfaite santé et ils sont pleinement à l'œuvre. Leur maison est écrasée. L'ambassade va les aider. Ils ont perdu passeport. Ils ont tout perdu, mais ils sont avec les missionnaires avec lesquels ils travaillent dans les orphelinats. Il y a des médecins qui sont sur place et jour et nuit, ils sont au service de la communauté et l'ambassade et leur a offert de revenir. Mais ils ont dit non, on veut rester là-bas. Alors, à leurs familles qui sont ici, maman qui est ici, les parents qui sont ici, les frères et sœurs, leurs enfants qui sont ici, adultes, nous nous réjouissons avec vous et nous prions pour la protection de Dieu à Haïti. Et Port-au-Prince va être un endroit de drame et un endroit avec beaucoup de dangers dans les prochaines semaines et mois. Alors nous prions pour eux et remercions le Seigneur pour leur courage. Nous prions pour Isabelle Depelteau, qui est une femme de l'Église. Son mari Dan est ici ce matin, qui est la directrice Québec pour Vision Mondiale, avec laquelle nous sommes partenaires sur plusieurs projets en Haïti. Et elle est là en ce moment. Elle est là en Haïti en ce moment parce que les bureaux de Vision Mondiale sont effondrés, et ainsi que plusieurs organismes. Alors, priez pour elle. Je parlais avec elle ce matin au téléphone, sur les lignes qui se coupent et tout ça, et elle coordonne les efforts. Je veux dire un mot pour nous tous qui regardons la télé et nous voyons les tonnes de nourriture et de toutes sortes d'équipements et d'aide qui est à l'aéroport et qui semble avoir peine à se rendre aux gens. Et on regarde avec impatience en disant pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite, pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas. Il faut que vous compreniez qu'il y a des centaines et centaines de dirigeants d'organismes qui sont habitués, qui sont depuis des années, qui savent comment travailler en Haïti, qui ont péri, qui ont perdu la vie. C'est comme si les têtes de tous les organismes aidants ont été décapitées. Alors, il y a tout un besoin à des organismes comme Vision Mondiale, qui ont plein de gens dans leur propre organisme qui sont endeuillés, leurs propres maisons sont écrasées. Vous avez le président des Nations Unies, la mission des Nations Unies en Haïti qui a péri. Alors, priez pour Isabelle qui est là-bas avec plusieurs autres. Elle est comme une correspondante du Québec. Elle nous donne toutes sortes de nouvelles. Vous l'avez vu à LCN et à différents endroits. Mais priez que Dieu leur donne sagesse, que Dieu leur donne la façon dans les jours, dans les heures qui sont là. J'étais au téléphone avec le pasteur Wilson Charles ce matin, hier, avant-hier, ce matin, afin de voir comment on va rendre l'aide directement à lui, alors que tout ce qui semblait si fort, si solide a été secoué. La diapositive, vous avez une photo qui est là, qui date de quelques mois à peine, où nous étions, nous sommes allés faire une conférence de pasteur où j'ai apporté la parole avec Gary Wilkerson, pasteur Mark, que vous voyez, pasteur Glenn Smith de Montréal, et nous étions devant 1500 pasteurs, mais cette photo est prise dans le lobby de l'hôtel Montana. Si vous avez entendu cette semaine, le nom de l'hôtel Montana a été mentionné toute la semaine. L'hôtel est complètement démoli. C'est l'hôtel où le ministre Marcil était et séjournait. Et tout ce qui semblait si solide dans cette région-là a été secoué. Et nous avons beaucoup d'efforts dans cette région-là, mais partout à travers Haïti, ne pensez pas que c'est seulement Port-au-Prince ou Petionville. Des villes comme Carrefour, des villes comme Léogane, des villes comme Petit-Gouave, des villes comme Jacmel et partout à travers le pays ont été très, très, très gravement secouées. Je veux donner un rapport aussi concernant le pasteur Chavan Jeune, qui est un homme. Il y a des photos de nous et de Chavan qui vont apparaître lorsqu'il était ici à Nouvelle-Vie il y a quelques temps avec l'Église. On priait avec lui. C'est un frère de longue date, de la première heure, et je veux vous donner une bonne nouvelle que lui aussi et toute l'équipe de Radio Lumière sont vivants, sont sains et saufs, et la grâce de Dieu a été là. Je veux vous dire aussi, avec beaucoup d'émotion, la bonne nouvelle que le pasteur Wilson Charles, notre frère, et son épouse Gladys, ainsi que leur famille, sont sains et saufs. Nous avons été au téléphone avec lui dans presque 3 jours sans nouvelles. Il était à plusieurs heures de route. Il était à Jacmel et il a été pris lorsque c'est arrivé. Il a attendu, il a essayé de se rendre avec sa voiture. Aucune route était, les ponts étaient éclatés et les routes étaient impraticables. Alors, il a laissé sa voiture à Jacmel, a pris une motocyclette, puis a fait la route pendant 12-15 heures en motocyclette pour se rendre finalement à sa famille. Lui et les siens sont sains et saufs. Mais l'Église, le bâtiment, une église de plus de 1500 personnes, pasteur Wilson a commencé avec une quinzaine de personnes dans un local qui est plus petit que notre salle de prière. Il avait bâti à Port-au-Prince un bâtiment extraordinaire de multiservices, une grande, grande église pour plus de 1000 personnes, et le bâtiment est entièrement détruit. En ce moment, il n'y a plus, ce dimanche matin, pendant que nous, on est ici, je lui ai parlé il y a quelques minutes, ce dimanche matin, pendant que nous, on est ici, lui, il est dehors, dans un parc, avec ses pasteurs et avec ses croyants, et le bâtiment est fissuré, il est tombé, et sa propre maison l'est aussi, et au fil des années, le pasteur Wilson est peut-être l'homme, l'homme de Dieu le plus courageux que je connais. Je l'ai vu traverser des guerres civiles, traverser des coups d'État, traverser des inondations, mais il y a quelques jours, jeudi ou vendredi, à ce Mark, on appelle tout le temps, et ça, c'est un appel sur 100 qui finalement finit par percer. Et on l'a pris, il ne savait pas que c'était nous. Il était assis devant sa maison, il a pris, et alors qu'il a pris le récepteur, il n'y avait pas d'afficheur pour savoir que c'était nous. En prenant le téléphone, on l'entendait sangloter, et il disait Too many dead. Il a des centaines de personnes de son église qui ont perdu des êtres chers. Et ça, c'était jeudi. Je lui ai parlé ce matin, et déjà, il était la grâce de Dieu sur lui, le courage de Dieu sur lui. Il m'a dit ce matin, je vais faire plusieurs cultes toute la journée dans un parc à l'extérieur. Alors, je vais vous dire qu'il est là. C'est un homme, il y a une photo qui va apparaître, un homme qui, dans toute la communauté, a un impact. On a une photo de lui, la diapo 11, où on le voit avec nous, avec Pastor Mark, moi-même et Gary Wilkerson, mais aussi avec la mairesse de Petit-Yonville. Je veux que vous vous rappeliez de son nom, Claire Valmont, qui est la mairesse de Petit-Yonville. Sa ville est détruite. Et cette mairesse est une chrétienne engagée qui venait à nos conférences, qui va à l'église du pasteur Wilson, une femme de Dieu. Alors, je veux que vous priez. Elle est saine et sauf, elle aussi, mais je veux que vous priez pour elle. Et le genre de personne qu'est pasteur Wilson, j'ai beaucoup de photos avec lui, mais il y en a une qui me tient à cœur particulièrement, la prochaine. C'est une photo de moi et lui dans un endroit bizarre. Lorsqu'il a implanté plusieurs églises à Port-au-Prince et partout dans le pays, et la dernière qu'il a implantée, nous sommes en train de la bâtir, l'œuvre à l'Artigue. Je vais vous annoncer que l'œuvre à l'Artigue est bien, ils sont assez loin et en montagne, qu'il n'a pas été touché, n'a pas été secoué. L'édifice, la construction est presque terminée. Mais cette œuvre à l'Artigue a commencé alors qu'il voulait prêcher dans la rue. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait rien. Et la ville ne voulait pas lui permettre aucun terrain. Alors, il a demandé aux autorités, est-ce que je peux prendre ce terrain-là? Et c'était le seul terrain, avec moquerie, ils lui ont dit, vas-y, si tu veux prêcher là. Et le seul terrain qu'on lui a donné, c'était le cimetière. Et il a commencé à prêcher, il y a 2 ans, la résurrection, la vie dans un cimetière. Et c'est là que les gens ont commencé à accepter le Seigneur et qu'aujourd'hui, il y a une église. Écoutez-moi bien. Et lui va entendre ce message et je veux lui dire que nous allons être là avec lui pour rebâtir son église. Et je vous annonce que je vais, dans peu de temps, aller prêcher la dédicace de la nouvelle église que nous aurons bâtie avec lui et son équipe. Et j'aimerais que vous le convainquiez qu'il vous entende ce matin. Ce matin, nous allons prier. Dans quelques minutes, à la fin du message, nous allons inviter chacun de nos frères et sœurs et sœurs à s'approcher. Nous allons prier avec eux. Et nous allons prier non seulement ce matin, mais que dans les jours à venir. Mais ce matin, nous allons prier et nous allons également donner. À la fin de la réunion, nous allons recevoir une offrande. Il y a quelque chose de très, très émouvant qui prend place. Si vous regardez à l'écran, si vous allez sur notre site Internet, vous pouvez faire un don ce matin. Si vous faites un chèque à l'église Nouvelle-Vie, vous pouvez faire un don à l'arrière, mais vous pouvez aussi toute la semaine. Et dans les prochaines semaines, et le dire à vos amis, faire un don directement en ligne par Internet, et sans qu'on demande quoi que ce soit à personne, il y a eu toute une levée de fonds internationale qui prend place en ce moment, qui nous a extrêmement touchés. Il y a des églises de partout qui nous appellent et qui nous disent, on prend les offrandes aujourd'hui, la semaine prochaine, on recueille des fonds et on vous les envoie à vous, parce qu'on sait que vous allez les acheminer directement. Alors, je veux, vos dons ce matin sont tous accompagnés de dons de partout. L'église Times Square Church à New York, ainsi que l'église de Springs Church à Colorado Springs, avec David Wilkerson, Gary Wilkerson, Carter Conlon. En Belgique, l'église du pasteur Kiadza et les églises sous la charge du pasteur Kiadza en Belgique. Des églises en France, plusieurs églises en France, pasteur Barbu, pasteur Créteur, plusieurs autres. Église à Toronto, Queensway Cathedral. Église à Orlando, grande église à Orlando qui nous a appelé. Église à Langley en Colombie-Britannique et toutes les églises ACF ce matin qui recueillent ces offrandes. Et vous avez entendu également du gouvernement du Canada et nous faisons les démarches pour être enregistrés officiellement avec l'ACDI afin que chaque dollar que vous allez donner, le gouvernement va mettre un dollar à côté. Alors, quel que soit ce qu'on va amasser ensemble, ça va être doublé. Nous allons prier et nous allons donner et nous allons annoncer par notre générosité à tous nos frères et sœurs d'Haïti que nous sommes avec eux pour rebâtir leur pays et que l'Église Nouvelle Vie dise Amen ce matin. Vous ne verrez pas cette semaine ou la semaine prochaine, ici sur les écrans, beaucoup d'images de ce qui prend place en Haïti. Je ne crois pas que quelqu'un ici a besoin d'être sensibilisé. Et je crois que nous devons, je n'ai pas une bien grande voix, mais si ma voix pouvait être entendue, je voudrais même dire aux médias québécois, je voudrais les appeler à une plus grande pudeur dans les images qu'ils montrent en ce moment. Alors que des milliers d'Haïtiens n'ont pas de nouvelles de leurs propres parents, il y a des images qui ont été vues dans les derniers jours qui, je crois, sont un glaive dans les cœurs. Alors ce matin, on va regarder, juste pendant un instant, nous allons recueillir les offrandes à la fin de l'avant-midi. Et ce matin, nous n'allons pas montrer beaucoup d'images, ni dans les prochaines semaines. Je ne crois pas que qui que ce soit ici a besoin d'être sensibilisé à l'horreur. Mais simplement afin qu'on s'arrête un instant pour dire quelle est ma part à moi là-dedans. Vous savez, et c'est vraiment sans aucune pression, mais lorsqu'on a une offrande comme celle-là, bien, on peut avoir une idée de ce qu'on veut donner. Simplement ce matin, s'arrêter un instant, là, ça dure à peine une minute et quelques. Et pendant qu'on regarde ces quelques images, que vous puissiez dire juste, Seigneur, quelle est ma part? Quelle est ma part à moi? Qu'est-ce que je vais donner à la fin de cette réunion ce matin? Puis aussi prendre un moment de prière, pour des gens qui sont assis autour de nous et aussi de prière pour le pays d'Haïti. Alors que nous regardons ces quelques images, qu'on puisse lever nos cœurs en prière et dire, Seigneur, moi je veux faire ma part afin que le tremblement de terre puisse devenir transformation. Seront faits iront premièrement pour de l'eau, des vêtements, de la nourriture, des soins, tout ce qui est nécessaire aux soins médicaux. Nous étions ce matin même au téléphone avec Haïti. On est capable maintenant d'acheminer directement, commencer directement à acheminer l'aide à ceux qui en ont besoin. Alors, les besoins primordiaux de survie, on parle d'eau, de vêtements, de nourriture, de tout ce qui est nécessaire aux soins médicaux. Il y a, selon la Croix-Rouge, un estimé pour 50 000 morts, mais on parle de centaines de milliers de blessés qui sont sans soins en ce moment, non seulement dans la capitale, mais dans plusieurs villes d'Haïti. Et par la suite, dans les prochains jours, qui vont devenir des semaines également, des tentes dès les prochains jours pour tous ceux qui sont sans-abri, des kits et des tentes pour des gens qui sont réfugiés, qui ont perdu leur maison et leur domicile. Et la prochaine étape sera dans des projets de reconstruction. Dans les projets de reconstruction que nous allons vous présenter de semaine en semaine dans les prochaines semaines et mois. Comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Est-ce qu'il y a quelque chose, comment quelque chose de bien peut-il émerger de cela? Comment le message de transformation trouvé dans Éphésiens a-t-il une pertinence devant tant d'horreurs? Comment la transformation peut, comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? C'est lorsque nous comprenons le contexte dans lequel le message de transformation d'Éphésiens a été communiqué, ce que les gens vivaient lorsque le Seigneur a donné le Saint-Esprit a donné ce message pour l'apôtre Paul, que nous en comprenons toute la pertinence, toute la vitalité et toute l'importance pour nous aujourd'hui en 2010. Comprenez le contexte de la promesse de transformation. C'est un contexte où Paul, l'apôtre Paul, était impuissant. En prison, alors qu'il est dans l'inconnu face à la souffrance et la situation de sa famille et de ses enfants. Lorsque la presse disait cette semaine, la manchette disait en même temps « chaos et espoir ». C'était exactement le contexte de Paul qui était, lui, emprisonné, qui était loin et qui ne pouvait rien faire. Ce sentiment si enrageant d'impuissance. Sentiment de « je ne sais pas, d'inconnu ce qui arrive » avec ses enfants spirituels. Et alors qu'il était dans ce sentiment d'impuissance, le Seigneur lui donne cette parole pour eux, pour lui-même et pour eux, de transformation possible. C'est un contexte de famine, de pauvreté, de souffrance, mais aussi d'usure, de plusieurs décennies de souffrance. Parfois, les chrétiens ou jeunes chrétiens ne comprennent pas que plusieurs des épîtres, dont Éphésiens, mais plusieurs des épîtres du Nouveau Testament ont comme toile de fond des villes qui sont brûlées à feu et à sang, des famines qui balaient le pays. Et c'est pourquoi vous lisez tant de versets où très pratiquement dans les épîtres, vous avez comme nous des croyants qui se rassemblent pour s'organiser afin de donner et recevoir des offrandes et donner pour des gens au loin de leurs frères et sœurs qui souffrent. Le contexte de la transformation, de la promesse de transformation dans Éphésiens, c'est un contexte d'un peuple désespéré, aux prises avec un fatalisme paralysant. Et la tentation de tout abandonner face à leur avenir. C'est un peuple dans Éphésiens, un contexte de chrétiens qui doutent secrètement, mais profondément des promesses de l'amour et de la protection de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ces gens dans Éphésiens qui étaient à l'église, qui chantaient, qui louaient, face à l'horreur qui les entourait, se retrouver à un endroit où, c'est pourquoi avec amour, avec énormément de tendresse, non pas comme une semonce, non pas comme une correction, mais avec énormément de tendresse, comme si Dieu les prenait dans ses bras et les berçait doucement. Il leur disait, réveille-toi, rappelle-toi. Le fatalisme les guettait, le sentiment d'à quoi bon serrait leur gorge. Alors, c'était comme si Dieu littéralement leur disait, si vous lisez Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, rappelle-toi, tu es un bien-aimé, tu es appelé, tu es un élu, tu as été prédestiné à quelque chose, tu ne vis pas seulement pour toi-même, tu ne vis pas seulement, tu es appelé à contribuer à quelque chose, tu es mon enfant et je peux encore à travers toi te faire vivre, te faire connaître et te faire répandre la transformation. Le contexte d'Éphésiens est tellement important. Lorsque nous posons la question, comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Parce que c'est un contexte où le Saint-Esprit, littéralement, murmure à Paul, « Dis-leur, dis-leur, dis-leur comment la terreur, la tristesse, comment le tourment, comment le terrible, le terrifiant, dis-leur comment le tremblement de terre peut devenir transformation. Je suis encore le Dieu de la transformation. » Et trois, Dieu donne à Paul trois pensées toutes simples que je vous partage ce matin. C'est plus un partage du cœur qu'un sermon, mais je prie que ce partage du cœur dans ce temps de jeûne et prière, peut-être, je prie que peut-être a-t-il une teneur d'annonce prophétique, d'annonce des choses que Dieu a préparées. Et Dieu nous donne dans Éphésiens, voici comment le tremblement de terre peut devenir transformation par la famille de Dieu qui fléchit le genou ensemble. Dites à la personne près de vous, serrez le bras de la personne à côté de vous et dites-lui, nous sommes une famille. Dites ça à quelqu'un près de vous. Éphésiens chapitre 3 au verset 13, le diapo 18, « Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de ces douleurs, ces tourments, ces tribulations. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est pourquoi je vous demande de ne pas perdre courage, parce que je fléchis le genou devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom. » Ce matin, je suis d'accord et je dis « Amen » et je dis « Oui » en prenant sa main à l'artiste québécois haïtien Locke Merville qui a dit cette semaine à LCN « Aujourd'hui, chaque Québécois est haïtien. » Aujourd'hui, leur douleur est notre douleur, leur peine est notre peine. Nous disons à chaque frère et sœur haïtien dans ce lieu et dans les nations, vos larmes sont nos larmes, vos pertes sont nos pertes. C'est arrivé à quelqu'un de notre maison, c'est arrivé à quelqu'un de notre famille, c'est arrivé à quelqu'un que nous aimons. Et nous voulons déclarer aux croyants de l'Église Nouvelle Vie que dans le cœur de Dieu, l'Église, ce n'est pas un organisme avec des franchises, nous sommes un corps. Lorsqu'un souffre en Haïti, nous souffrons avec lui et nous sommes une famille ensemble et leurs enfants sont nos enfants. Nous nous arrêtons un instant pour dire et pour rappeler à nos cœurs, voici comment le terrible peut devenir transformation. Lorsque nous réalisons ensemble que nous sommes une famille, nous fléchissons les genoux ensemble, nous portons le fardeau avec vous et nous allons rebâtir avec vous. Et que ceux qui ont cette vision avec moi le laissent entendre ce matin. Cette fraternité des hommes, cette fraternité des êtres humains. Lorsque vous regardez au mot fraternité dans le dictionnaire, vous avez cette définition qui m'a fait réfléchir cette semaine. Fraternité, le lien existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine. Sentiment profond de ce lien. Le philosophe Bousset a dit, Dieu a établi la fraternité des hommes en les faisant tous naître d'un seul. La fraternité des hommes. Aujourd'hui, chaque Québécois est haïtien. Savez-vous à qui l'apôtre Paul parlait? Il parlait à l'église d'Éphèse. Il parlait à des gens, lorsque vous connaissez le contexte historique, à des gens qui, face à l'époque, au peuple juif qui croyait avoir le monopole avec Dieu, il parlait à des gens à cette époque qui étaient considérés, qui avaient été traités comme moins. Il parlait à des gens qui étaient des oubliés. Il parlait à une église qui avait connu de grandir méprisée, considérée comme moindre. Des gens qui étaient sans accès. Des gens qui n'avaient pas droit à ce que des gens autour d'eux avaient droit. Des gens qui on disait « pas pour toi ». Des gens à qui on disait « tu es moins que nous, tu as droit à moins que nous ». Et l'apôtre Paul l'adresse d'une manière extraordinaire dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 12 et 13, il leur dit littéralement « vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit, privés du droit de citer en Israël, étrangers et interdits aux alliances de la promesse ». Sans espérance dans le monde. Ces mots ont résonné dans mon esprit toute la semaine. Vous étiez privés du droit. Vous avez de génération été des gens, un peuple qui regardait ce que d'autres prenaient pour acquis et vous n'y avez pas droit. Mais Dieu dit, il y a dans mon cœur cette pensée, voici une des caractéristiques de l'Église sur la terre. Elle va restaurer le cœur de Dieu qui dit, chaque enfant où il soit dans le monde a les mêmes droits. A droit à un toit sur sa tête, a droit à un vêtement, a droit à de l'eau propre. A droit à aller à l'école, a le droit d'être en sécurité physique, sexuelle ou autre, a le droit d'être protégé dans sa maison et dans son pays, a le droit de rêver, a le droit d'espérer. Et je veux déclarer que oui, il y a des peuples sur cette terre qui se sentent sans espérance dans ce monde, privés, interdit à certaines promesses que le reste d'entre nous prenons pour acquis. Mais nous, l'Église, disons aux enfants et au peuple d'Haïti, vous êtes nos frères et sœurs, nous sommes une famille et nous voulons nous donner à vous remettre vos droits. Vous y avez droit! Voulez-vous applaudir à tout rompre la pensée qu'ils y ont droit? Ils ont droit! Ils ont droit! Ils ont droit! Ils ont droit! C'est pourquoi dans Éphésiens 3, comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Par la famille qui fléchit le genou ensemble. C'est pourquoi en Éphésiens 3, chapitre 14, 16 et 19, vous avez ces mots. Laissez-les pénétrer votre cœur et votre esprit, votre vie de tous les jours. Car c'est lui, parlant du Seigneur Jésus, qui a détruit les murs de séparation pour créer en sa personne, avec ce qui était séparé, un seul homme nouveau, faisant la paix pour réconcilier et faire mourir la division. Faire mourir le racisme, faire mourir le préjudice. Mon frère, ma sœur, quel que soit où tu es, toi qui entends ce message, à Port-au-Prince, à Petionville, à Jacmel, à Carrefour, tu l'entends à Léogane ou tu l'entends au Cap-Haïtien ou à Petit-Gouave, nous sommes frères. Nous, tes enfants sont mes enfants et ta cause est devenue la mienne. Quelqu'un devrait dire oui. Et le Saint-Esprit vient souligner avec ces mots magnifiques ce que devra être l'engagement de nos prochaines années. Verset 19, il dit à ceux qui avaient été méprisés, à ceux qui avaient peine à croire, à ceux pour qui c'était si difficile de croire qu'ils appartenaient vraiment à une famille, que quelqu'un s'occuperait vraiment d'eux, que quelqu'un ne les laisserait pas tomber. Il dit ainsi, vous n'êtes plus des étrangers. Diapo 21, verset 19 de chapitre 3 d'Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus loin de nous. Vous n'êtes plus des gens de passage, c'est moi qui ai ajouté, vous n'êtes plus des gens de passage dans nos cœurs, mais vous êtes frères et sœurs avec nous, membres de la famille de Dieu. Je veux prendre devant vous, planter mes deux pieds dans le sol de la foi et dire publiquement devant cette église et devant toutes les églises de l'ACF et devant toutes les églises qui sont partenaires avec nous et surtout au cœur de nos frères et de nos sœurs haïtiens, vous n'êtes plus loin. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas dans nos cœurs à tant d'heures d'avion. Vous n'êtes pas loin de nous. Vous n'êtes pas loin et vous n'êtes surtout pas de passage. Ce n'est pas une attention momentanée. Je me réjouis en ce moment que le monde entier se tourne vers Haïti. Je me réjouis, mais j'aimerais dire au peuple haïtien, nous étions là avant le tremblement de terre et on va être là après le tremblement de terre. Vous n'êtes pas de passage dans nos cœurs. Vous êtes écrit dans nos cœurs pour toujours. Et ça va être la mission de notre vie, de vous rebâtir. Je veux dire de cette façon, à chaque Haïtien qui est ici dans ce lieu haïtienne, aux jeunes de tous les âges, à même les jeunes haïtiens qui sont nés ici, et à ceux qui sont arrivés, et à ceux qui en ce moment se sentent coupés, ceux qui se sentent retranchés, ceux qui se sentent seuls, ceux qui ont peine et difficulté même à faire confiance, j'aimerais vous le dire de cette manière la plus simple possible, je prie qu'elle entre dans vos cœurs, vous avez une famille. Vous avez une famille. Je sais que vos larmes sont comme un fleuve, mais vous avez une famille. Je sais que vous êtes fragile, sans force en ce moment, mais vous avez une famille. Je sais que vos bien-aimés ont faim, mais vous avez une famille. Je sais que le fardeau vous écrase, mais vous ne le portez pas seul, vous avez une famille. Je sais qu'il y a un fiel dans vos cœurs, mais vous avez une famille. Je sais que qu'il y a des frissons de frayeur en vous, mais vous avez une famille. Je sais que vous avez douté de la fraternité des hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que vraiment c'est réel? Mais vous avez une famille. Je sais que ce fracas vous a laissé bien faible, mais vous avez une famille. Je sais que vous demandez qui sera fidèle? Qui sera fidèle? Qui restera? Mais vous avez une famille. Je sais qu'il y a une fracture dans votre foi, mais vous avez une famille. Et je sais que vous combattez contre la pensée que tout est fini, mais vous avez une famille et votre famille vous dit, il y aura transformation après ce tremblement de terre. Et ceux qui font partie de la famille disent amen dans ce lieu ce matin et communiquent un message de grâce. Comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Par la famille de Dieu. Par la famille de Dieu qui fléchit le genou ensemble. Comment le tremblement de terre peut-il devenir transformation? Par la force surnaturelle que Dieu donne, qui surpasse toutes nos compréhensions humaines et nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance dans sa fidélité. Nous pouvons rebâtir par, nous pouvons voir le tremblement de terre devenir transformation par la famille de Dieu et par la force surnaturelle que Dieu donne. Éphésiens 3, selon les desseins éternels de Dieu, nous avons la liberté de verset 11, chapitre 3, verset 11, où nous avons le choix de nous approcher de Dieu avec confiance afin d'être surnaturellement fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 18, afin que vous puissiez comprendre. Comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui transcende toute compréhension ou incompréhension, tout questionnement, toute limite, toute perspective ou opinion, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour voir la transformation émerger de ce tremblement de terre par la famille de Dieu et par la force surnaturelle que Dieu donne, qui nous rend capables de faire un choix. De faire un choix. Et lorsque nous venons en sa présence, il y a une force surnaturelle au-delà des limites humaines, une journée à la fois, des capacités humaines, des questionnements humains, où Dieu vient et nous remplit et nous fortifie miraculeusement, surnaturellement par son esprit dans l'être intérieur, afin que nous puissions avoir une fraîche révélation que son amour est plus grand que tout. Je veux appeler tous les chrétiens qui vont entendre ce message, tous les prédicateurs, tous les chrétiens, je veux vous appeler en ce moment à prier que Dieu vous donne sagesse dans tout ce que vous dites et ce que vous faites. Je veux vous demander au Seigneur de vous donner sagesse avant de lancer des paroles de jugement et des paroles de malédiction et des paroles clichés sur toutes sortes. Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a des sujets qui sont de centaines et de centaines d'années. Lorsque les murs étaient écrasés, Néhémie est arrivé. Il a pleuré, il a jeûné. Il a dit, levons-nous et rebâtissons. Et dans la suite de ce message de compassion et d'amour, il y a un moment plus tard où il est arrivé et s'est assis avec la parole de Dieu. Il a regardé à leur historique avec la parole de Dieu. Il s'est mis à regarder à comment maintenant nous pouvons non seulement avoir reconstruit, mais nous pouvons être libérés de nos liens passés. Il y a plein de chrétiens en ce moment qui lancent des choses qui sont des poignards dans l'âme des Haïtiens. Lorsque j'étais en Haïti face à face avec le président de Vision Mondiale à l'époque, un homme pour lequel j'ai une admiration extraordinaire, qui avait consacré tant d'années à Haïti, il m'a dit, on a fait un sondage auprès de milliers et de milliers d'enfants haïtiens. On leur a demandé plein de questions, mais une des questions qu'on leur a demandé, c'était quel serait ton souhait numéro un, ton plus grand désir, ton plus grand rêve. Et avec des larmes dans ses yeux, il m'a dit au-dessus de la table d'un déjeuner, il m'a dit, c'est une des missions de notre vie de changer cette pensée, parce qu'il y avait près de 80% des enfants qui ont dit, mon plus grand rêve, ce serait de quitter Haïti. Cette pensée qui leur a été communiquée de génération en génération, vous êtes maudits, vous êtes finis, vos ancêtres ont fait un pacte, il y a pas de succès pour toi, il n'y a pas d'espoir pour toi, il n'y a rien qui pourrait arriver pour toi, il n'y a rien de bien qui pourrait arriver en Haïti. Je veux me tenir debout ici devant vous et vous dire, il y a une sagesse et un discernement, un enseignement à donner ensemble et à découvrir et à prier et à jeûner ensemble pour le peuple haïtien qui a besoin de repentance comme nous tous. Mais en ce moment, nous devons nous arrêter et dire, Seigneur, voici ce que nous avons besoin. Nous venons devant toi afin que par ton esprit, tu nous donnes une révélation que par-dessus toutes les questions qu'on a sans réponse, tous les pourquoi et qu'est-ce qui est arrivé, il y a un Dieu qui est amour. Un Dieu dont la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour est au-delà de nos compréhensions. Il faut avoir l'Église, l'humilité de dire, je ne sais pas. L'humilité de dire, je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais pas tout et je ne suis pas Dieu. Mais j'ai le choix. J'ai le choix de l'amertume, du jugement facile et des paroles de mort. Ou j'ai le choix de me rouler les manches. Et est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et dire à chaque enfant d'Haïti, il y en a un avenir pour toi. Il y en a un futur pour toi. Il y en a une destinée pour toi. Nous avons la liberté, nous avons le choix de nous approcher de Dieu avec confiance et d'avoir cette révélation qu'au-delà de ce que je ne comprends pas, tout ce que je peux connaître ou comprendre, je peux comprendre et croire que Dieu m'appelle à faire partie de la solution. Le choix, je fais le choix de l'action plutôt que de l'amertume. Je fais le choix de l'engagement plutôt que de l'endurcissement. Je fais le choix de l'implication plutôt que de l'indifférence. Je fais le choix de la foi plutôt que du fatalisme. Je fais le choix de la main ouverte, de la main tendue plutôt que du poing serré devant Dieu. Je fais le choix de croire que le cataclysme va devenir un catalyseur et que Dieu va amener sa transformation là où il y avait un tremblement de terre. Quelqu'un devrait dire oui. Partout à travers l'histoire en ce moment, l'ex-président Clinton, ainsi que les plus grands du monde, parlent de 500 millions à 1 milliard de dollars vers Haïti. Ils parlent d'effacer la dette du pays. En ce moment, des choses qui étaient absolument impensables il y a 2 semaines, 3 semaines, qui sont réalité. En ce moment, il y a les plus grands de ce monde qui parlent d'un plan Marshall, comme il y a eu pour rebâtir l'Europe, l'Europe qui semblait être détruite. Il y avait partout à travers l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes qui disaient « l'Europe ne pourra plus jamais être, elle ne pourra plus jamais retrouver sa gloire, les villes ont été bombardées, les villes sont détruites, et le monde entier s'est mobilisé, et en collaboration, et en leadership, et avec générosité, avec ceux qui étaient là. » Et on parle en ce moment d'un plan Marshall. Laissez-moi vous dire que le plan Marshall original, il est dans le cœur de Dieu, qui dit « Hors des cendres, je peux rassembler le monde entier, les meilleures ressources du monde qui vont venir ensemble afin de rebâtir le pays d'Haïti. » Quelqu'un devrait dire oui. La force de rebâtir partout à travers les Écritures. Il y a des noms, des personnes dans les Écritures, toujours au milieu de ruines et de désastres qui se lèvent pour rebâtir. Alors que vous lisez ces noms, entendez, prononcez votre propre nom, chacun d'entre nous à notre mesure. Joseph, au milieu de la famine, un homme de réconciliation et de pardon, se lève pour rebâtir. Haïti a besoin d'hommes et de femmes et de leaders qui vont se lever. Hommes et chacun d'entre nous à notre mesure, ici dans nos villes, ici de Montréal-Nord jusqu'à Port-au-Prince, rendus capables par Dieu de pardon, de laisser aller, de relâcher, hommes et femmes de réconciliation et de paix afin de rebâtir. Moïse, au milieu des cris de souffrance et de désespoir, un homme au passé lourd qui se lève pour rebâtir. Nous connaissons, nous avons passé les derniers 20 ans à étudier l'histoire, l'historique, sociologique, économique, spirituel. Nous savons qu'il y a un passé lourd à Haïti, mais nous déclarons prophétiquement que la perle des Antilles va briller à nouveau. Nous déclarons prophétiquement que Dieu a un avenir pour Haïti. Néhémie, au milieu des décombres et des débris, des murs effondrés, un homme loin du désastre et confortable, un homme éduqué et bien installé, entend un cri, s'approche, se lève pour rebâtir. Néhémie n'était pas dans son pays, il était dans la diaspora. Il était dans un autre endroit, il avait bâti une vie pour lui-même. Il s'était développé, il était éduqué, il était dans le palais du roi. Et alors qu'il entend parler que les murs se sont effondrés dans son pays, il pleure. Il pleure, la Bible nous dit qu'il pleure. Mais non seulement a-t-il pleuré, il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner. Et alors qu'il s'est mis à prier et à jeûner, comme un aimant, l'Esprit de Dieu n'a pas seulement pleuré, il a prié, il a jeûné. Alors qu'il s'est approché et qu'il a vu les ruines, il a dit « Levons-nous et bâtissons ». Et j'appelle non seulement ici à Montréal, mais à Boston, et à New York, et à Miami, et en Europe. J'appelle la diaspora. J'appelle des hommes et des femmes que Dieu a maintenant bénis, qui ont une connaissance, une intelligence et du succès. Le Saint-Esprit vous appelle et vous dit, retourne, nous avons besoin de toi pour rebâtir Haïti. Joseph, Moïse, Daniel, Néhémie, Jérémie. Je comprends ce cri. Je comprends ce cœur. Il est dans le mien aussi. Combien d'entre vous comprenez ce cri et comprenez ce cœur? Jérémie, je veux parler aux jeunes pendant un instant ce matin. Aux jeunes par Internet, aux jeunes en personne ici. Aux jeunes haïtiens et haïtiennes des nations, et de Montréal, et de Nouvelle-Vie. Un jeune homme, Néhémie, qui dit, je suis trop faible. Je suis trop faible, je suis trop jeune, je ne peux rien faire. Et Dieu dit à Jérémie, chapitre 1, que vois-tu, Jérémie? Oh, il dit, je vois des marmites de feu qui s'apprêtent à déborder. C'est facile de ne voir que les marmites de feu, que ne voir. Il n'y a rien qui peut arriver, il n'y a rien qui peut changer, il n'y a rien qui changera jamais. Alors le Seigneur lui dit, Jérémie dit, le Seigneur me toucha à nouveau, il me toucha, il me demanda, regarde une autre fois, il me demanda une seconde fois, que vois-tu? Je demande à chaque jeune personne, haïtien, québécois et autres, de dire, Seigneur, touche-moi une autre fois, je veux regarder une autre fois Haïti, je veux regarder une autre fois, que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche comme celle de l'amandier, saked dans l'hébreu, la phrase, le mot, l'arbre, alors qu'il y avait eu sécheresse, alors qu'il n'y avait plus aucune vie, alors que le sol était dur, la première branche qui perçait et qui annonçait que la vie était pour revenir. Que vois-tu, Jérémie? Je ne voyais que des marmites de feu. Que vois-tu maintenant? Je vois celui qui annonce la vie. Je disais, j'étais trop jeune, je disais, je ne pouvais rien faire, mais Dieu m'a appelé à annoncer la vie et j'appelle la jeune. J'appelle la jeunesse haïtienne, j'appelle la jeunesse québécoise et je vous dis, vous avez une part à jouer. Nous pouvons chacun, à notre part, annoncer la vie pour le pays d'Haïti. Quelqu'un devrait dire oui. Le pays. Alors que les musiciens s'approchent, comment le tremblement de terre deviendra-t-il? Transformation. Tremblement de terre, comment le tremblement de terre pourra-t-il devenir? Transformation, par la famille de Dieu, par la force surnaturelle de Dieu. Je termine avec ceci. Par une flamme d'espoir que rien ni personne ne pourra éteindre. Par une flamme d'espoir que rien ni personne ne pourra éteindre. Lorsque le journaliste de la presse, c'est-à-dire pour 26, Alain Leduc a écrit, « Le cataclysme deviendra-t-il un catalyseur? » Il y a une flamme d'espoir qui peut saisir nos cœurs et qui peut garder nos cœurs, que des pires choses Dieu peut faire émerger encore des meilleures. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage, diapo 35. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes souffrances, car elles deviendront votre gloire. À partir des souffrances, un témoignage va émerger. Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, tout ce que nous pouvons imaginer, de toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'à Haïti en 2010, et tout le peuple de Dieu dit. Du cataclysme qui devient un catalyseur. De la tragédie va émerger un témoignage de gloire. Savez-vous ce que je crois? Je vous prophétise ce qui va arriver dans les prochaines années. Les prochaines années, il va y avoir le monde entier qui va découvrir ce que nous savons du peuple haïtien. Moi qui y vais depuis maintenant 17, 18, 20 ans, je crois que le monde entier va découvrir. Vous avez entendu les journalistes cette semaine, vous avez entendu les médecins. Je n'ai jamais vu un peuple comme celui-là. Je vais vous dire, je vais vous prophétiser que de cette horreur, le monde entier, un témoignage de gloire va émerger. Que le monde entier va découvrir la dignité des Haïtiens. La scène, tous les jours, quelles que soient les conditions, de voir tous les matins ces centaines et ces milliers de petits garçons et petites filles bien mis, avec leurs boucles dans leurs cheveux, et les petits garçons qui s'en vont à l'école, qui vont découvrir, le monde entier va découvrir le courage des Haïtiens, va découvrir leur dignité, va découvrir, laissez faire tous ceux qui vont seulement vous parler de ceux qui volent et de ceux qui pillent. Si vous allez en Haïti, que vous connaissez Haïti, vous allez découvrir la fraternité des Haïtiens, vous allez découvrir leur courage, vous allez découvrir leur dignité, vous allez découvrir leur résilience extraordinaire et vous allez découvrir leur foi en Dieu qui est capable de transformer chaque situation. Je veux déclarer prophétiquement que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le Seigneur tarde sa venue 50 ans, les historiens vont regarder à l'année 2010 et vont déclarer qu'il y a eu à travers cette situation, à travers ce désastre en 2010, un renversement pour Haïti. Alors que le monde qui ne regardait pas regarde. Alors que la dette qui écrasait peut disparaître. Alors que les milliards qui n'étaient pas là peuvent venir. Alors qu'il y a un peuple qui va se lever dans les nations pour prier et pour donner et pour s'engager. Ce qui aurait été voulu pour le mal peut être changé pour non seulement bâtir des écoles, mais bâtir de meilleures écoles. Non seulement bâtir des bâtiments, mais des bâtiments plus sécuritaires. Non seulement refaire des structures physiques, mais rebâtir une structure morale, une structure spirituelle dans le pays d'Haïti. L'espoir que du cataclysme, le cataclysme devienne un catalyseur. L'espoir que de la dévastation s'élèvent des décisions. L'espoir que le besoin de construire provoque aussi le courage de changer. L'espoir que la compassion devienne le combat et le courage de chacun contre la corruption. Est-ce qu'on peut dire amen? L'espoir que cette agonie et cette misère forcent l'attention du monde. L'espoir que le désastre fasse disparaître les divisions dans la diaspora. L'espoir que du gouffre émerge une génération généreuse, un geste, une goutte à la fois. Que de l'horreur émerge une nouvelle Haïti et du tremblement de terre émerge la transformation. Alors ce matin, nous allons donner et ce matin, nous allons prier afin de faire un geste pour que du chaos puisse émerger l'espoir. On va préparer à recevoir les offrandes. Je vais demander à Maggie Blanchard de s'approcher. Maggie, qui a accepté de chanter ce matin, je la remercie malgré ses propres combats, ses propres situations, ses propres deuils, ses propres tristesses. Et nous sommes précédés ce matin, alors que nous allons donner et recevoir cette offrande dans quelques instants, la jeunesse vendredi soir et la portion jeune adulte seulement, 18 à 30 de la jeunesse, on prend une offrande vendredi soir et êtes-vous prêts? Ils ont donné 9 000 $ vendredi soir ici. Come on! Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui sont fiers de nos jeunes? Ne laissez personne vous dire c'est juste une goutte, c'est juste un geste. Une génération qui s'élève en posant des gestes et ces gouttes qui vont devenir des fleuves de transformation. Vendredi soir, il y a plusieurs personnes, les jeunes qui ont donné toutes sortes de témoignages déjà, de gens qui font toutes sortes de choses. J'aime cette jeune fille Maude Côté, la famille Côté, pasteur Stéphane et le pasteur avec Chantal, avec toute une équipe de nos enfants. Mais sa jeune fille Maude, je pense qu'elle a 13 ans, si je me trompe sur l'âge, pardonne-moi Maude, je sais qu'à cet âge-là, à l'adolescence, l'âge est important, 13 ans, 13 ans et demi, presque 14, je comprends. Mais Maude, après avoir entendu tout ce qui a pris place, elle dit qu'il faut faire quelque chose. Et on ne sait pas trop comment elle a parlé. Je voudrais avoir une vidéo de ça. Mais jeudi ou vendredi, elle est allée voir le directeur d'école, elle est allée voir toute la direction de sa polyvalente. Et elle les a convaincus que cette semaine, il va y avoir une journée. Ils ont tous des uniformes, mais il va y avoir une journée où tout le monde s'habille librement, mais donne 2 $ chacun. Elle a monté le projet du début à la fin. Et mais avec toute une équipe qui a embarqué, elle a convaincu une école entière. Et à cause d'une jeune fille de 13 ans qui pose un geste, il y a une école entière qui va recevoir des dons pour Haïti cette semaine. Est-ce qu'on peut dire oui? Je vous parle d'un espoir que rien ne peut éteindre. Je vous parle d'une famille. Je vous parle d'une famille. Je vous parle d'une force que Dieu donne de rebâtir. Et je vous parle de cette flamme d'espoir que rien ne peut éteindre. Le pasteur David Potier, le pasteur de notre jeunesse, il a 4 enfants avec son épouse. Il y a une photo de la famille qui va apparaître. Et il est arrivé à la table du souper. Et puis, c'est pour ça que j'ai les tirelires, les petits cochons ici. Il a commencé à parler aux enfants de ce qui se passait. Puis, il y a son garçon de 7 ans, qui s'appelle Anthony. Il a dit, « Papa, moi, je veux faire quelque chose. » Et son père était allé en Haïti l'été dernier, puis il avait ramené sa banque, sa tirelire, son petit cochon. Puis, c'est un tap-tap haïtien. Ça, Le taxi haïtien, c'est un autobus haïtien. Alors, il dit, moi, papa, je vais le donner. Puis, il est arrivé, puis il a donné son tap-tap, il a vidé sa tirelire. Alors, son petit frère Zachary, qui a 5 ans, il a dit, moi, je vais donner tous mes jouets. Et on lui a dit, c'est pas des jouets qu'on a besoin en ce moment, c'est des sous. Alors, il est allé chercher sa banque à lui. C'est leur banque. Puis, il était venu la vider sur la table. Et la plus petite, Léa, a 3 ans. Puis, elle a dit, moi, je vais donner tout mon maquillage. Il semble que c'est sa possession la plus précieuse à 3 ans. Combattre les douleurs du vieillissement, vous comprenez? Alors, ils lui ont dit, non, 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 tu ne peux pas donner du maquillage. Alors, elle aussi, elle est allée chercher son petit cochon. Ils l'ont vidé sur la table et il y avait 82 $ que la famille Potier a donné. Alors, je veux déclarer ce matin aucune pression, mais chacun d'entre nous allons... Par la grâce de Dieu, non seulement ce matin, je vous déclare que dans les prochaines semaines, dans l'année 2010 seulement, des dons, des sous, toutes ces églises qui se joignent à nous, mais aussi des équipes, lorsque les portes d'Haïti vont réouvrir très bientôt, des équipes de médecins, des équipes de constructeurs, des équipes d'enseignants, des équipes de louanges, des équipes pour les églises, des équipes pour rebâtir. Je vous dis, vous allez venir en Haïti avec nous cette année et nous allons poser des gestes parce que nous faisons partie de la famille et Dieu nous donne une force pour faire le choix de rebâtir et nous déclarons que le pays peut être rebâti parce qu'il y a une flamme d'espoir dans nos cœurs que rien ni personne ne pourra éteindre et ceux qui le croient, voulez-vous donner un dernier grand amen ce matin et acclamer le Seigneur. On peut enlever ça? Je vais demander à quelqu'un de venir enlever tout ça. Et j'aimerais vous maintenant, les placeurs vont s'avancer. Nous allons recueillir les offrandes pendant que Maggie va chanter Amazing Grace, qu'elle va chanter la grâce infinie de notre Dieu. Maggie est aimée et connue partout en Haïti. Alors qu'elle va venir chanter ce matin, ce chant va être entendu. Et j'aimerais vous inviter à cette générosité dans ces offrandes, les 10 000 offrandes qu'on va recevoir ce matin. Mais voulez-vous rester là quelques instants? Parce que pendant qu'elle va chanter, que nous allons donner, je veux que vous puissiez être en train de prier. Parce que quelques instants après, nous allons, dans un moment solennel, inviter tous nos frères et sœurs ici à s'approcher et nous allons prier pour eux. Nous allons les entourer, nous allons les aimer, nous allons prier pour eux et terminer dans l'annonce prophétique par la grâce de Dieu, que du tremblement de terre émergera la transformation parce que nous sommes une famille, parce qu'il y a une force surnaturelle qui est en nous et parce qu'il y a une flamme d'espoir que rien ni personne ne pourra éteindre. Bénis maintenant ces offrandes, Seigneur, et l'offrande et l'engagement de nos vies pour nos frères et nos sœurs haïtiens ici et dans le beau pays d'Haïti, dans le nom de Jésus et tous les enfants de la famille de Dieu disent Amen.
Lorsque j'y ai, c'est... dans mes épreuves, dans mes labeurs, suffis en tes grâces. Je peux toujours compter
vous inviter à vous lever avec moi dans la présence de Dieu. Merci pour votre générosité. J'aimerais inviter chaque personne d'origine haïtienne, hommes, femmes, les jeunes qui sont ici ce matin. J'aimerais vous inviter à vous approcher, à vous faire cette faveur ce matin. Nous voulons prier avec vous. Alors que nous allons chanter la force de Dieu, j'aimerais demander à tous les Haïtiens, hommes et femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, de vous approcher tout près ici à l'avant, partout ici au devant. Et pendant qu'ils s'approchent, j'aimerais qu'ils puissent s'approcher sous l'affection et l'appréciation et l'amour de chaque membre de l'Église Nouvelle Vie qui leur dit, vous êtes, nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. Venez, venez, venez tout près. Et vous, accueillir vos frères, vos sœurs. Approchez tout près, approchez tout près. Venez, venez, tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles, venez ce matin, venez ce matin. Venez, venez, voulez-vous les faire entendre vos applaudissements partout à travers Haïti qui vont entendre ce message? Tu es ma force. Pendant que les musiciens vont jouer la mélodie, tu es ma force. Incomparable. Voici ce que nous allons faire. Ce n'est pas du désordre, c'est l'ordre de Dieu. Ça va prendre quelques instants, mais c'est très important, c'est très significatif. Pendant qu'ils sont là, ici en avant, j'aimerais demander à des Québécois, Québécoises, des gens de toute nationalité qui sont là de Nouvelle Vie, je veux que vous fassiez un chemin, que vous approchiez vous. Ça va prendre quelques minutes, mais approchez-vous et venez trouver quelqu'un ici à l'avant. J'aimerais que pour toutes les jeunes qui soient là, il y a des jeunes qui viennent en arrière, des gars avec des gars, et des filles avec des filles, des couples avec des couples, des mamans. Allez, homme avec homme et femme avec femme. Voulez-vous venir pour vous tenir? Je voudrais le voir. Je sais qu'on est nombreux, mais tous nos frères et nos sœurs haïtiens ici, avec derrière eux le corps de Christ du Québec qui dit « Nous sommes un, nous sommes la famille de Dieu ». Ça va prendre quelques instants. Lorsque vous voyez arriver quelqu'un à côté de vous, faites-lui une place. Il va mettre son bras autour de votre épaule, homme avec homme, femme avec femme. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à prier tout de suite. Tous ceux qui s'approchent, venez, ceux qui ne peuvent pas s'approcher, je comprends qu'on est nombreux. Mais est-ce que je peux vous voir tendre vos mains vers le devant ce matin et commencer à prier? Tout le monde, c'est un geste symbolique. Est-ce qu'on peut tendre nos mains ici? Et alors que vous tendez vos mains vers ces hommes et ces femmes, vers cette famille de Dieu haïtienne ici, vous tendez aussi les mains vers Haïti. Vous tendez les mains vers nos amis, vers nos frères, nos sœurs. Vous tendez les mains vers les chrétiens, vers les Haïtiens du Québec, 100 000 d'entre eux, et vers les Haïtiens de partout à travers la diaspora et les Haïtiens de partout à travers Haïti. Nous voulons vous dire que nous sommes là. Nous voulons vous dire que nous allons être là. Et nous nous tournons ensemble vers Dieu pour chanter que le Seigneur est la force. Il y a tous les Haïtiens qui sont ici à l'avant. Mettez votre main aussi à côté. Serrez-vous les coudes avec vos frères et vos sœurs haïtiens, les uns avec les autres, alors que nous chantons la force ensemble. Tu es ma force, Seigneur.
Tu es ma force. Oh, incomparable. Incomparable. Tu es à moi.
Je demande à Yves Aimé de le chanter une fois en créole, pendant qu'il le chante, qu'on lève nos voix en intercession pour ne pas se joindre à lui lorsqu'il va chanter en français, mais pendant qu'il le chante en créole, cette prière en créole pour le peuple haïtien, levons nos voix, chacun dans nos langues, levons nos voix vers le Seigneur et prions pour nos frères et nos sœurs.
Où s'efforce-moi, non point ton cours, non point.
Tu me relèves,
fais-moi camper.
Tout le monde ensemble, chantons-le, prions-le les uns pour les autres.